Alors tout cela est né de la volonté d'une vieille association qui s'appelle FDN, qui est une association qui fournit de l'accès Internet depuis 1992, qui est une association nationale, mais qui était relativement petite et méconnue, et qui a décidé, vu qu'elle grossissait, elle grossissait en 2009-2010, elle a décidé d'essaimer et d'inciter les gens à localement monter une structure similaire pour fournir de l'accès Internet. Et on a répondu à l'appel avec deux autres personnes, et donc on a décidé de monter Illico en 2010 pour aller apporter de l'internet, notamment dans les endroits où il n'y en a pas, où les débits sont mauvais, dans ce qu'on appelle les zones blanches.
Alors, apporter de l'Internet, c'est-à-dire quoi? Vous êtes fournisseur d'accès?
Exactement, on est fournisseur d'accès internet, tout comme peuvent l'être Orange, Free, SFR. La manière dont on le fait, c'est d'une part l'ADSL, à ce moment-là on réutilise les infrastructures des autres opérateurs, ou sinon on fait du Wi-Fi, notamment pour aller dans les zones blanches, comme je le disais, et donc on va déployer des réseaux à base d'antennes Wi-Fi qui vont nous permettre d'aller atteindre ces zones un petit peu reculées.
Par exemple, quelle zone vous avez équipée comme ça?
Alors pour l'instant, nous, notre côté, on n'est pas vraiment sur des zones blanches à proprement parler, mais par contre, on a déjà déployé un réseau du côté de Chantex, où on fournit de l'accès Internet sur le village pour les gens qui le souhaitent. Et notamment, pendant le festival de Chantex, on fournit de l'accès Internet complètement ouvert sur tout le festival pour tous les gens qui sont présents.
Alors, Illico, Internet libre en Corrèze, c'est quoi l'Internet libre? C'est-à-dire quoi libre? Libre de quoi?
Alors, c'est une vaste question, mais en quelques mots, pour nous, l'idée derrière notre démarche, c'était de porter un discours politique sur l'accès Internet, de dire qu'on peut se le réapproprier déjà et que c'est pas quelque chose qui est forcément entre les mains de grosses entreprises commerciales, que c'est quelque chose qu'on peut bricoler avec d'autres personnes et qu'on peut construire localement. Ensuite, une des idées derrière notre démarche, c'est de se dire que tout ça peut être fait avec des logiciels libres, donc avec une certaine indépendance vis-à-vis de constructeurs, de matériel, etc. Et puis surtout, on a une volonté très forte c'est plus qu'une volonté, c'est une affirmation, on ne surveille pas ce que font nos adhérents, nos abonnés, on ne va pas regarder leurs usages d'Internet, on ne va pas surveiller ce qu'ils font en ligne, et on ne va pas intervenir non plus dans leur connexion à Internet, on ne va pas ralentir l'accès à certains sites, et qui sont des pratiques qui sont courantes chez les gros fournisseurs d'accès à Internet.
Et si par exemple vous avez des injonctions dire du pouvoir judiciaire ou policier justement par rapport à ce genre de choses, vous avez déjà une position par rapport à ça?
Alors, on va dire que les réquisitions judiciaires, jusque-là, on n'en a pas reçu, mais par contre, si on en reçoit, qu'elles soient en bonne et due forme, on y répondra avec les informations minimales que la loi nous oblige à fournir. De ce point de vue-là, on respecte entièrement la loi, on est une association déclarée et on est tout à fait légaliste. En revanche, il y a un sujet sur lequel on a décidé de s'opposer et de refuser de l'appliquer si jamais on venait nous le demander, c'est le blocage d'accès à des sites sur décision administrative, qui a été voté via une première loi qui était la loi LOPCI, et puis ensuite par la loi antiterroriste à la fin de l'année dernière. Comme les décrets sont sortis, en 2014, on a décidé de dire non et de dire qu'on ne bloquera pas l'accès à des sites sur décision uniquement de la police, ce qui est prévu dans la loi, donc sans passage par un juge, donc pas de contradictoire, etc. La liste des sites bloqués est une liste noire, donc il n'est pas possible de la connaître. Donc pour nous, c'est extrêmement dangereux, ça pose de nombreuses questions en termes de liberté d'expression et si jamais on vient nous demander d'appliquer ce blocage et d'empêcher l'accès à nos abonnés pour ces sites-là, on refusera de l'appliquer. Et on ira, bien entendu, contester cette obligation devant les cours de justice adéquates.
Là, Illico, ça représente, vous êtes combien de personnes en Limousin, en Corrèze, de membres actifs, bénévoles, peut-être qu'il y a des salariés, enfin comment vous organisez?
On est entièrement bénévole, on est composé d'une quarantaine d'adhérents, avec à peu près une quinzaine de personnes qui sont connectées à Internet par nos services. Donc on ne fait pas beaucoup de promotion, on n'essaye pas de gagner des adhérents et de recouvrir toute la Corrèze et de devenir hégémonique. C'est pas du tout l'idée. On se repose plutôt sur le bouche à oreille et sur voilà, sur des relations de proche en proche, de gens qui parlent de nous.
D'accord. Donc on pourra diffuser cette interview quand même?
Oui, pas de problème.
Vous avez quelles ressources financières? Comment vous vous financez?
On est complètement autofinancé, tous les services qu'on fournit sont entièrement financés par les cotisations et par les tarifs, par les prix que les adhérents fixent pour les services. Enfin, tout est décidé et autofinancé, comme ça on ne dépend d'aucune subvention extérieure.
Parce qu'il y a des, je sais qu'au niveau de subventions, il y a pas mal de budget alloué pour le numérique, la fracture numérique, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment aussi une politique de votre part de ne pas aller chercher dans ces financements-là.
Oui, c'est par prudence au départ, en tout cas, on avait décidé d'essayer de fonctionner de manière complètement indépendante et aussi dans une idée d'avoir un fonctionnement très humain et où les gens se connaissent, ont confiance en eux, ont confiance dans les gens qui gèrent l'accès à Internet, qui gèrent les services. On a décidé de ne pas grossir, de ne pas justement aller chercher des subventions et des choses qui nous auraient fait devenir sur un mode un peu client-fournisseur, ce qu'on veut à tout prix éviter. Même si les gens qui sont dans l'association ne sont pas techniques, enfin une partie des gens ne sont pas techniques, on ne leur demande pas de faire de la technique, on leur demande juste de participer à la vie de l'association, de poser des questions quand ils en ont. On peut expliquer tout ce qu'on fait de manière très simple au final. Et on veut que les gens soient partie prenante. Et donc ça explique aussi pourquoi on n'est pas allé justement chercher ces subventions, on n'a pas cherché à grossir, comme ça peut être le cas dans d'autres situations.
Cherchez pas les parts de marché, quoi. Mais
Non.
et surtout, ce que je comprends bien, vous voulez surtout pas que les gens à qui vous allez qu'on utilise vos services soient en position de consommateur, finalement.
Exactement, on ne veut surtout pas cette relation-là. On tient vraiment à ce que les gens soient partie prenante du service qu'ils utilisent. Et que voilà, c'est un petit peu. Quand j'essaie d'expliquer ce qu'on fait aux gens, je leur explique qu'on est un petit peu la map de l'accès à Internet. Voilà, on va faire la distribution de temps en temps. On va donner des paniers aux gens, etc. Là, c'est la même chose. On va donner un coup de main quand on le peut, quand on veut. On fait la compta, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'association qui ne sont pas du domaine technique. Et c'est important d'avoir autre chose que de la technique dans ce qu'on fait, puisque au final, Internet est au cœur de nos vies aujourd'hui dans tous les aspects. À l'expliquer les enjeux d'Internet et expliquer comment ça fonctionne et quels sont les tenants et aboutissants dans notre vie de tous les jours, c'est pas une question technique, c'est une question de société et il y a des enjeux politiques derrière.
Par exemple.
Bah, des enjeux de liberté d'expression, voilà, on se dit que c'est un peu distant, mais en fait, la question de la liberté d'expression est vraiment une question, comme la vie privée, une question collective, et arriver à comprendre que la protection de ses données personnelles, la vie privée, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles le fournisseur d'accès Internet a une position privilégiée parce que, vu qu'il nous fournit l'accès Internet, c'est le point de passage obligé pour toutes nos communications en ligne. Et comme c'est le point de passage obligé, c'est aussi l'endroit où peuvent se faire de la surveillance, de la discrimination dans les sites qu'on peut consulter ou les informations qu'on peut consulter. Et pour nous, c'est extrêmement dangereux. Il faut on veut que les gens puissent avoir accès à l'information, puissent s'exprimer, puissent communiquer librement. Et voilà, par exemple, ça c'est le type d'enjeux sur lesquels on essaye d'informer.
J'ai l'impression qu'il y a cette idée aussi, enfin, de vraiment de se réapproprier au niveau local, alors qu'on est quand même un peu dépossédé, comme tu disais, par des grosses entreprises multinationales, et puis voilà, aussi une complexité qui fait que bah, on se dit voilà, bon, ça appartient, ça peut se gérer qu'au niveau national, voire multinational et global. Et là, tu dis ah tiens, bah non, finalement, on peut on peut nous avoir un peu de prise là-dessus et à une échelle très très locale. C'était ça un peu l'essence du projet au départ, cette idée-là, ou je fabule?
Non, c'est exactement ça, tu as très bien compris. En fait, Internet, on le voit comme un espèce de service, un peu comme le Minitel, où c'est France Télécom, c'est quelque chose de lointain auquel on se connecte, etc. Alors que, en fait, c'est pas du tout comme ça que le réseau fonctionne. Internet, c'est un réseau de réseaux, et donc c'est des réseaux différents qui s'interconnectent entre eux, de proche en proche, un peu comme un patchwork, comme un tissu avec des pièces collées les unes aux autres. C'est la même chose, et localement, on peut construire des morceaux d'Internet qu'on va recoller aux autres morceaux pour aller permettre à des gens qui sont à l'autre bout de la terre de consulter le site de la montagne Limousine, ce genre de choses.
Là, les projets à venir, c'est quoi là, comment vous voyez un peu ce qui va se passer?
Parmi les projets à venir, il y a notamment le fait de pouvoir opérer sur le réseau Dorsal, donc le réseau d'initiatives publiques, sur l'ADSL, et du coup on pourrait aller fournir de l'ADSL en Corrèze à des prix inférieurs au tarif qu'on a actuellement, qui sont pas forcément très abordables. Et puis sur le Wi-Fi, typiquement, il y a un projet en germe, en gestation, sur le fait d'aller couvrir ici, sur la montagne Limousine, autour de Tarnac, des zones qui sont aujourd'hui mal desservies.
Alors là, sur la fête, je sais que vous allez proposer un atelier où, tout au long de la journée. Tu peux m'en dire un mot ou...
C'est ça, on est à côté de la place des médias et on essaye de répondre aux questions des gens autour d'Internet et de l'anonymat, de comment on protège sa vie privée en ligne, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour accéder à de l'information, quels sont les outils qui permettent de contourner aussi parfois la censure, etc., etc. Donc on essaie d'expliquer tout ça à partir de cet atelier-là, et puis on va avoir une conférence à 16h où on va expliquer comment fonctionne l'accès à Internet, qu'est-ce que c'est, tout ce que je viens d'expliquer en fait, et décrire un petit peu l'état des lieux de l'infrastructure ici en Haute-Corrèze.
Donc là, c'est un peu, ça me fait un peu penser à une démarche d'éducation populaire finalement, là, de pouvoir se réapproprier des savoirs comme ça. C'est un peu dans ça que vous vous inscrivez?
Complètement, ça correspond très bien à ce qu'on essaye de faire. C'est vraiment ça, c'est de faire transmettre un savoir, ne pas faire que ce soit quelque chose qui soit lointain, distant et sur lequel on a l'impression de ne pas avoir de prise, mais comprendre que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire soi-même, qu'on peut apprendre et qui est finalement à la portée de beaucoup de gens.
Vous avez des structures un peu comparables? Il y a des choses qui vous ont, enfin des structures comparables qui existent en France ou ailleurs, des choses dont vous êtes inspiré, des démarches dont vous vous sentez proche, enfin quelque chose un peu, voilà, avec lesquelles vous êtes en connivence. C'est quoi votre
Alors,
monde?
Notre monde, c'est notamment, comme je l'ai dit, il y a eu cet effort d'essaimage en 2010 qui a donné lieu à plusieurs structures, dont Illico. Et à la base, il y avait donc une seule association, FDN. Et maintenant, on est 27 associations un peu partout en France à s'être créées et à s'être fédérées, donc dans une fédération qui s'appelle Fédération FDN. FFDN.org, et donc qui regroupe toutes ces associations avec plus de 2000, je crois 2200 membres un peu partout en France et aussi bien à la ville que dans des zones comme à la campagne comme ici en Corrèze. On essaye d'expliquer justement, toujours dans une démarche d'éducation populaire, comment on peut monter son propre fournisseur d'accès à Internet associatif comme on l'a fait nous. Ailleurs, dans des zones où justement aujourd'hui il n'y a pas encore des associations et des initiatives comme les nôtres. Et donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette espèce d'engrenage où à partir d'une association il y a eu aujourd'hui on en a 27 et on essaye de propager la parole aussi à l'extérieur de la France. On a une association qui s'est créée en Belgique, on a des liens avec d'autres structures en Allemagne, en Autriche, un peu partout dans le monde. Et on essaye justement de coordonner tout ça, de faire de l'échange de bonnes pratiques, et de faire que tous ces réseaux-là, toutes ces initiatives-là, discutent ensemble et fonctionnent ensemble.
Thank you.
this thunderstorm. Into this house we are born. Into this world we are drawn. Like a dove without a bone, an actor all alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is screaming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet memory will die. Killer on the road. Yeah, you gotta love your man. Yeah, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends, or life will never end. Gotta love your man.
Je suis avec deux bénévoles sympathisants, on va dire, de l'association Illico, partisans, carrément. Et ils ont deux ordinateurs portables. Et ils sont en train de pianoter. Et je vois des lignes de code à ma droite. Qu'est-ce qui se passe ici, là, autour de cette table?
Une petite configuration de faire un pont Wi-Fi là, pour amener le net, parce que ça a été un petit peu chaotique, l'organisation, ce matin, mais... Ça devrait bien se passer.
un pont Wi-Fi, c'est un accès Internet, quoi.
Ouais.
Ok.
Alors, en fait, on fait la même chose que ce qu'on ferait en fait quand on est en train de raccorder des gens. C'est-à-dire que bah, là, on est un peu au milieu de nulle part. On n'a pas l'électricité, on n'a pas Internet. Et on a trouvé quelqu'un dans la rue qui voulait bien nous fournir l'accès chez lui. On a ramené deux points d'accès. Et en fait, on est en train de les configurer pour pouvoir nous ramener de l'Internet ici. On ferait la même chose, en fait, si au lieu d'être devant l'ancienne poste en plein milieu du village de Tarnac, si on était dans un hameau... en plein milieu de la cambrousse, sans internet, on fera à peu près la même chose avec des antennes un peu différentes, un peu plus directionnelles, mais c'est à peu près ça.
D'accord, donc on bricole quoi, on s'en sort comme ça quoi.
Exactement, on bricole. Enfin, c'est pas vraiment forcément du bricolage, c'est des choses qui sont assez fiables en fait, hein. Ça fonctionne quand même bien. C'est pas. J'aime pas le mot bricolage.
Ah, ça peut avoir sa noblesse. Et alors là, l'objet un peu de la journée, c'est parler d'anonymat, d'aider un peu de renseigner les gens là-dessus, leur donner des outils pour se protéger, c'est ça?
Ben oui, aujourd'hui en tout cas, on est un peu plus axé sur un peu ce que c'est que les gens de jeux d'Internet, ce que c'est Internet, quels sont un peu les acteurs qu'il y a sur la montagne Limousine, comment nous on se situe dans tout ça, petit fournisseur d'accès Internet. Et après, demain, ça va être beaucoup plus axé justement sur l'anonymat, les contre-mesures qu'il y a à l'heure actuelle vis-à-vis des censures qui peuvent exister. Bon, à l'échelle nationale ici, on est assez bien servi depuis les dernières années avec des lois qui visent à surveiller toute la population et à mettre des éléments techniques qui sont, disons, contrôlés par la police de manière à pouvoir regarder un peu ce que font les utilisateurs. Et donc on va essayer de présenter des outils qui permettent de passer outre tous ces moyens de censure et de surveillance.
C'est encore possible ça, parce qu'on se dit, les moyens techniques et l'arsenal législatif qui est justement du côté du contrôle et du pouvoir paraît tellement démesuré, on se demande encore comment on peut échapper à ça.
Mais effectivement, c'est le côté législatif qui à l'heure actuelle prend de l'ampleur, mais en termes techniques, on est encore à des niveaux totalement ridicules, c'est-à-dire que les moyens qui sont déployés à l'heure actuelle pour effectuer des censures de sites web, c'est contournable en une petite configuration qui dure 30 secondes, en deux clics, exactement, c'est ça, en deux clics pour faire une expression simple à comprendre. Mais disons, voilà, aujourd'hui, à l'heure actuelle, contourner la censure, c'est vraiment pas l'affaire de techniciens, c'est juste l'affaire d'une connaissance de base, de se poser la question et de faire la démarche. Après, sur les questions de surveillance, c'est un peu plus compliqué. Il y a des personnes qui travaillent à des outils pour le grand public, notamment des gens qui développent un système qui s'appelle Tails. Ils ont aussi écrit un bouquin qu'on a devant nous, là, qui s'appelle le guide d'autodéfense numérique. Et à ce niveau-là, il y a pas mal de choses qui sont en développement parce que depuis les dernières années, la censure était tellement présente, notamment au Moyen-Orient ou pendant le printemps arabe, que tout le monde s'est posé la question d'en fait la sécurité et la protection de la vie privée. Il fallait qu'elle soit accessible au grand public. Et donc du coup, depuis ces dernières années, on a vu émerger des outils intéressants de ce point de vue-là. Et donc c'est ça un peu qu'on va présenter demain, c'est tous ces outils qui émergent et qui sont à l'heure actuelle assez matures pour être en tout cas utilisés par quelqu'un qui serait un non-technicien total.
Alors attends, il y a l'outil technique, mais tu l'as dit, il y a aussi un moment, à la base, la volonté de se poser des questions et de réfléchir un peu à ces pratiques, non ?
Quelle pratique? Je comprends pas bien la question.
Sa pratique, son usage d'Internet, comment on s'expose, etc. Enfin, il n'y a pas que le... Finalement, il y a des réponses techniques, mais au départ, il y a peut-être aussi un questionnement personnel à avoir et collectif.
Ah ben bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si les grands opérateurs et les GAFA, Google, Amazon, tout ça, ils fonctionnent et ils font de l'argent, c'est précisément parce qu'on les utilise. C'est précisément parce qu'ils fournissent un service qui fonctionne bien, qui est en libre accès, disons en libre accès, il est gratuit. Enfin, rien n'est jamais gratuit de ce point de vue-là, parce qu'ils font des millions d'euros, mais c'est parce que c'est nous qui les utilisons. Si on se prend en main et qu'on met en place des alternatives qui fonctionnent aussi bien qu'eux, et c'est ça que permet Internet, c'est de développer des alternatives avec en termes de visibilité et de fonctionnement qui sont à peu près similaires, on est très bien capable de se passer des GAFA. Enfin, ce que j'appelle les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, et je ne me rappelle plus le dernier, voilà. En gros.
Pardon. Ok, alors juste là, comment. Là, malheureusement, pour ceux qui ne pourront pas assister à cet atelier, tu as parlé d'un livre, tu as parlé de références un peu, comment on peut déjà faire un premier pas pour en tout cas rentrer dans ces questionnements-là et puis peut-être se doter de ces outils de protection.
Alors en termes d'accès à l'élément technique, disons à la matière technique, même sans être trop technique, il y a ce livre donc qui s'appelle le guide d'autodéfense numérique qu'on accède depuis le site web guide.boom.org, boom boom.org, guide, voilà comme on écrit guide. Et donc là c'est un livre qui est élaboré vraiment autour d'une thématique de manière à ce qu'elle soit accessible au grand public. Donc là ça parle de il y a une version hors connexion, une version en connexion. La première traite en fait de toutes les menaces qu'on peut avoir en termes de sécurité de la vie privée quand on utilise juste un ordinateur, et de l'autre côté c'est quand on utilise Internet, là quels sont ces mêmes types de menaces, voilà. Et après sur les outils, donc ces mêmes gens développent un très bon système d'exploitation qui est facile d'utilisation pour le grand public, qui s'appelle Tails. Et le premier pas à faire, et c'est un pas aussi simple que de simplement graver ce système, le lancer et l'essayer. Et on se rendra compte que c'est aussi simple que de démarrer son ordinateur en fin de compte, et qu'il y a plein d'outils qui sont d'ores et déjà disponibles et qu'on doit prendre en main. Voilà, donc c'est simplement faire ce premier pas, ça passe par peut-être survoler le livre et lancer le système.
Merci.
Mais de rien.
Nos carnets de santé,
nos poèmes, nos dessins,
nos demandes de congés,
nos premiers chats coquins,
nos recettes de cuisine,
nos relevés bancaires,
nos rencarts, notre planning
et notre compte à découvert.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher.
Rien,
rien, rien,
rien à cacher.
Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Ou alors si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans.
Nos listes de choses à faire,
nos tendres SMS,
nos écrits de colère
et nos carnets d'adresses,
nos cafés préférés,
nos horaires de piscine,
nos ennemis jurés
et le nom de la voisine.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher.
Rien,
rien, rien, rien à cacher.
Se dire « Oh, je n'ai rien à reprocher, donc je n'ai rien à cacher » est un petit peu absurde dans un monde où la surveillance est généralisée et où on a vu que c'est à trois niveaux de relations que les individus sont surveillés par la NSA. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le frère, peut-être perdu de vue, d'un type barbu qui est soupçonné de commettre des actes de terrorisme, si vous n'avez rien à voir avec cette personne, alors c'est potentiellement tous vos emails, toute votre navigation, tous vos coups de fil, tous vos SMS qui sont espionnés par la NSA.
Nos cartes d'adhérents,
nos radios, nos scanners,
les photos de nos parents,
nos bulletins de salaire,
notre poids en chocolat,
nos drogues favorites,
les vidéos du chat
et nos idées politiques.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
Ces choses que l'on a envie de garder pour soi, c'est son intimité. C'est là que tu peux expérimenter avec des théories, des hypothèses. Tu peux dire, et si... Oh, et puis non. C'est là que se niche ce que l'on pourrait appeler la créativité. Et c'est ça qui est menacé. Lorsque l'on se sent surveillé. Lorsque l'on est surveillé.
Nos mails inachevés.
L'adresse de notre docteur.
Notre âge est détaillé.
Nos relevés de compteur.
Nos préférences sexuelles.
À bien y réfléchir.
Sont pas si personnelles.
Que l'on veut bien le dire.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
En fait, on a tous quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher de son petit copain, de sa femme, de son patron, de son collègue, de ses amis. On a tous au moins un quelque chose à cacher de quelqu'un. On voit bien que les comportements changent quand on se sent espionné, quand on se sent surveillé, quand on ne peut plus bénéficier de cet anonymat qui fait partie directement de la protection de notre vie privée, comme il fait partie de la liberté d'expression.
Nos lectures matinales.
Nos clics et nos cauchemars.
Les sources de notre journal.
Si on se lève tôt ou tard.
Nos entretiens d'embauche.
Le montant de nos impôts.
Notre conception de la gauche.
Et la taille de notre bureau.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
Si toi tu penses que t'as rien à cacher et que du coup tu t'en fous et que t'as envie de tout donner à Google et à Facebook, eh bien tu te rends pas compte qu'en faisant ça, tu vas aussi donner une partie des communications de tes correspondants, de ta famille, de tes amis à Google et Facebook. On devrait exiger des pouvoirs publics, ils imposent des régulations strictes de la protection des données personnelles et de la vie privée, de la même façon qu'on devrait exiger un encadrement strict des activités de renseignement et des activités de surveillance.
À part bien sûr notre vie privée, on n'a rien, 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 rien à cacher. À part bien sûr nos petits secrets, on n'a rien, 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 rien à cacher.
Alors concrètement, moi si je veux faire appel à vos services, je sais qu'il y a ou en tout cas participer, ou vous contacter, ou poser des questions. J'imagine que vous avez un site internet.
Voilà, illico.org, ILICO.org, et il y en a un formulaire de contact sur le site pour nous contacter. Et voilà, toutes les questions sont les bienvenues, et s'il y a des gens qui veulent nous aider, participer, on les accueillera avec grand plaisir.
Et on peut avoir son adresse mail à illico.org.
Aussi, on fournit exactement des adresses mail, tout à fait pour nos adhérents.
Rien à cacher.